Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Mélène Yerpen. Bonjour.
Salut.
Mélène, tu es avec nous pour nous parler d'un roman que tu as publié aux éditions L'Harmattan. Et c'est un livre de science-fiction dans la collection Miroir du réel qui s'intitule « Pas avant 2043 », un ouvrage d'anticipation qui parle d'un homme qui s'éveille, amnésique, et donc il va tenter de retracer un peu son passé ou ce passé depuis le Connemara jusqu'aux rues de Limerick. Et donc il découvre une société dont il n'avait pas conscience peut-être à ce moment-là, et c'est une élaboration peut-être de sa situation, de son positionnement dans cette société qu'il découvre.
Ouais, c'est ça, il se réveille après une longue amnésie, donc la société a évolué dans un certain sens, donc lui n'est pas forcément au courant de comment ça a évolué, mais il découvre petit à petit, en fait, lui, son but, ça va être vraiment de retrouver une forme de liberté qu'il a plus, visiblement, donc de s'évader, et à partir de là, ben, de retrouver des traces qui peuvent lui faire revenir des souvenirs, lui faire comprendre dans quelle société il est, puis petit à petit, il rencontre d'autres personnes, grâce auxquelles il comprend petit à petit voilà, ce qui se passe, etc. Donc en lisant, on découvre avec lui à la fois la société dans laquelle il est, qui est une société profondément sous contrôle, on va dire, avec des biais technologiques très forts qui permettent d'aller jusqu'à contrôler les hormones, donc les comportements sociétaux, etc. Et puis il va d'un autre côté retrouver des souvenirs, retraverser sa propre existence et se rendre compte qu'il n'est pas non plus totalement étranger voilà, à la naissance de cette société-là.
Il y a cet aspect d'amnésie, et quand je lis, quand j'ai lu ces pages, il y avait ce sentiment qu'il y avait de nouveau cette envie de s'accaparer de nouveau de ses sens et de donner un nom à chaque chose.
Ouais, ben d'abord, en fait, il y a un double truc, c'est que il y a cette société du tout contrôle, et puis il y a lui qui a plus du tout de mémoire, qui donc est complètement amnésique, et en fait, la seule chose qui lui reste, c'est son corps. C'est la seule certitude qu'il a, c'est son corps, c'est ses sensations, c'est voilà le donc il y a au début ça passe beaucoup par raconter aussi c'est quoi le toucher, c'est quoi la poignée de porte gelée, la texture du papier peint, la texture des tissus qu'il va toucher, etc. Et petit à petit en fait cet endroit de sensation, de corporalité, elle s'exprime énormément de plus en plus dans le livre, pour aller vers quelque chose qui permet aussi d'échapper au contrôle qui est induit par ces technologies. Si les technologies cherchent à contrôler nos pensées, finalement, retrouver les sensations du corps, etc., c'est une forme de liberté, en tout cas c'est un socle sur lequel on peut se baser pour ne pas se laisser happer par ces technologies qui nous contrôlent.
À cette lecture, mon sentiment est aussi, en quelque sorte, cet égarement. Et donc, on s'égare nous-mêmes dans la lecture. Hein. C'est un ouvrage qu'on ne lit pas comme ça de bout en bout d'un seul jet, je pense. Il demande aussi une pause assez, comment dire, fréquente pour pouvoir absorber un peu les mots qui viennent d'être lus. C'est un peu cette description aussi, cette confusion de cette issue de cette amnésie, et donc d'essayer de reprendre conscience.
Oui, ouais, c'est un peu ça. Ben, cet homme qui se réveille, il est complètement paumé. Donc, et c'est écrit à la première personne. Donc forcément, quand on le lit, il y a un endroit de confusion aussi qui peut s'inviter. Et il y a une deuxième chose, c'est que le texte est assez riche, on va dire, au début, parce que j'ai voulu retranscrire peut-être la manière de s'exprimer d'un homme assez âgé, amnésique, qui est en décalage avec son époque, du coup, et que petit à petit, au fur et à mesure où il rencontre des gens donc d'âge divers, etc., potentiellement des jeunes qui ont un parler complètement différent, et ben l'écriture se transforme aussi au fur et à mesure du roman. Du coup, il y a une vraie évolution là-dedans. C'est aussi écrit en inclusif. Donc il y a une évolution du livre, comme un passage d'époque finalement, qui transforme aussi ce personnage principal petit à petit, quoi, qui est très malléable finalement, comme il se réveille, comme il est amnésique, et ben tout ce qui arrive dans le réel prend énormément de place, et donc même son langage finalement va être marqué par les rencontres qu'il fait. Et puis, le rythme est de plus en plus effréné aussi dans le livre. La temporalité du livre, ça se déroule en une semaine, deux semaines. Et donc, les premiers temps, c'est assez lent parce qu'il se réveille, etc. Et puis, petit à petit, c'est de plus en plus effréné. Et au fur et à mesure de la recherche d'alternatives aussi, où on rentre dans un espèce de combat politique sur la deuxième partie du roman, ben là, c'est très, 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 très effréné, ouais, comme rythme.
Et le dialogue est dense, hein, dans cet ouvrage. C'est aussi, comme tu disais, un moyen de se réapproprier le langage, la pensée.
Oui, exactement. Et je crois que moi, j'aime beaucoup écrire à la première personne. Mais ça peut être aussi un piège d'être trop narratif. Pour moi, en tout cas, quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais la sensation que si j'étais trop dans le descriptif, etc., à la première personne, ça allait être un peu ennuyant, quoi. Et d'ailleurs, il y a des passages que j'ai beaucoup réduits parce que je les trouvais ennuyants en premier abord. Et finalement, je me suis énormément axé sur les dialogues pour faire du descriptif sans en être, quoi, comme une forme de descriptif, et de raconter les personnages aussi sans avoir besoin de mettre des pages et des pages de description. Et c'est pour ça que l'écriture à la première personne me plaît beaucoup. C'est que finalement, il n'y a pas un point de vue extérieur qui peut dire ce qu'il veut sur tel ou tel personnage, balancer telle ou telle information à n'importe quel moment. On est obligé de faire passer des informations par l'interaction sociale, par la relation humaine, quoi. Et ça, c'est profondément intéressant aussi, je trouve.
Le titre, pas avant 2043, a-t-il un sens selon toi ?
Ben, moi, en fait, c'est né avec la création de ce roman, le titre. C'est-à-dire que j'étais sur un bateau en partance pour les Canaries, sur un voilier, et j'ai fait un rêve qui est le début de ce roman. Et donc le matin, j'ai commencé à écrire, et tout le long du voyage, pendant 4 mois, j'ai écrit ce livre et j'ai mis le point final au moment de revenir, quoi. Donc c'est vraiment assez marrant, quoi. Le livre est vraiment lié à ce voyage. Et sur ce bateau, on avait 3 albums, 3 CD. À l'époque, on écoutait des CD. Et c'était Björk, Kenny Arcana et Bachung. Et l'album de Bachung s'appelle Pas avant 2043. Et c'est aussi le titre d'une chanson. Et donc, très naturellement, quand j'ai commencé à écrire ça, que je me suis rendu compte que c'était un roman futuriste d'anticipation, en écoutant Pas avant 2043 en boucle dans mes oreilles, ça a profondément marqué le livre, donc c'est devenu le titre. Et puis il y a quelques phrases aussi pour les amoureux de Bachung, il y a des petites phrases cachées comme ça qui sont des titres de chansons de Bachung dans le livre.
Pourquoi vouloir proposer cet ouvrage d'anticipation et ne pas être justement se situer à notre époque d'aujourd'hui ? Ça allait à contresens avec le prétexte de ce livre ?
Ben, pour moi, j'aime beaucoup la littérature de l'avenir, on va dire. Qu'elle soit lointaine, donc carrément de la vraie science-fiction, comme on peut l'imaginer, ou l'anticipation, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui permet d'offrir à l'esprit une fenêtre ouverte sur qu'est-ce qu'on pourrait devenir si on allait dans ce sens-là ou si on allait dans ce sens-là. J'ai la sensation que, surtout à notre époque, ouvrir des fenêtres comme ça, d'imaginaire, ça a un impact potentiellement assez fort sur la société, quoi, de comment imaginer des futurs possibles, désirables. Et on en parlait un peu hors micro, mais y a eu cette vague de dystopie futuriste, film catastrophe, etc., très très noir sur le changement climatique, la chute du capitalisme, etc., comme si notre époque et le capitalisme étaient un horizon indépassable, et que si on le dépassait malgré tout par erreur ou par accident, ça allait être terrible. Et je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de fiction, que ce soit en littérature ou en cinéma, qui dépasse un peu cet endroit-là et qui disent « Non mais attendez, peut-être que la chute du capitalisme, en fait, ça va être super. » Bon, super, on ne sait pas, mais en tout cas, il va y avoir des potentialités énormes qui sont désirables, qui sont riches, qui sont potentiellement l'occasion de vivre des nouvelles choses, quoi, et de sortir de situations catastrophiques et très tragiques que le capitalisme impose au quotidien. Et donc, je crois que ce livre-là, il s'inscrit dans cette veine. Alors, il ne dépeint pas une société idéale. On n'est pas là-dedans. C'est une société qui est dystopique, où j'ai imaginé une société, effectivement, qui un peu continue sur la société qu'on connaît actuellement. Mais l'idée, c'est aussi de dessiner les failles de cette société, de dessiner comment, dans une société du tout contrôle, où tout semble profondément organisé, profondément contrôlé, où les humains humaines sont isolés, etc., où on a l'impression qu'il n'y a aucune possibilité de s'extraire de ça, et ben finalement, on se rend compte que non seulement il y a des failles énormes, mais que c'est quelque chose qui, économiquement, ne tient toujours pas debout. Du coup, il y a des révoltes. Et puis, là-dedans, il y a toujours des personnes qui imaginent des nouvelles choses. Et je trouve que, potentiellement, on sort de générations qui ont énormément lutté sur des terrains très concrets, de grèves, etc., et qu'on est un peu dépossédé de cette forme de lutte aujourd'hui. On ne sait plus trop comment faire à partir de ces formes de lutte. Et on se rend compte que là, partout dans le monde, il y a des nouvelles générations qui émergent et qui naissent avec leur époque et qui, en fait, trouvent de manière assez facile, c'est assez dingue, quand on voit ce qui se passe au Bangladesh, au Népal, enfin voilà, toutes les révolutions, les révoltes de la Gen Z, qui trouvent de manière très naturelle des ponts, des failles dans cette société, là où les générations passées, et je m'inclus un peu dedans, peuvent être parfois un petit peu dépossédées, en tout cas ne plus voir les failles qu'il peut y avoir et là où s'engouffrer pour déstabiliser les pouvoirs autoritaires, quoi.
Tu parles donc d'ouvrages, de films aussi, qui traitent de cet aspect, d'autres propositions utopiques. Donc, est-ce qu'il y aurait quelques références qui t'ont marqué, par exemple ?
Bah là, par exemple, je suis en train de lire Les Lichens. Je ne sais plus le nom de l'autrice, c'est Marine quelque chose. En tout cas, c'est Les Lichens au féminin, L-I-C-H-E-2-N-E-S. Et là, pour le coup, c'est de la pure science-fiction, ça va très très loin, la Terre est complètement ruinée, enfin, c'est vraiment un amas de déchets, on l'appelle la planète grise, et en fait ça commence, c'est une population qui vit sous terre, et qui petit à petit met le nez dehors, et puis même en intérieur commence à refaire pousser du végétal. C'est des femmes, c'est que des femmes dans cette société-là, des femmes un peu hybrides, avec qui se sont hybridées avec le végétal, on va dire. Et je ne vais pas dévoiler le livre, mais en gros, elles reçoivent un appel au secours d'une autre population. Elles connaissent l'existence de cette population, mais en essayant d'aller la contacter, elles vont se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent, etc. Et c'est un peu la même chose dans le sens où ce n'est pas une société idéale. On est vraiment dans une situation apocalyptique totale. Et pourtant, on se rend compte que même là, il y a des gens qui vivent plutôt bien. En tout cas, qui ne se rendent pas compte des autres formes de vie, donc qui considèrent qu'elles vivent plutôt bien, qui sont profondément solidaires entre elles, qui ont complètement réinventé une autre forme de vie, parce que leur hybridation avec le végétal fait qu'elles se reproduisent par bouture et non plus par sexualité. Donc il y a de la sexualité, mais elle n'est pas du tout reliée à la reproduction, donc ça change complètement les rapports humains. Et c'est hyper intéressant, quoi, d'ouvrir ces fenêtres-là. En fait, on peut complètement réinventer une autre forme de société. Et puis, quand on remet ces sociétés-là, quand on remet ces fenêtres d'ouverture sur le monde actuel, on se rend compte aussi que ces formes de société complètement différentes, elles existent aujourd'hui. Et qu'on peut aussi trouver des pistes de transformation sociétale à l'heure actuelle, quoi.
Il y a aussi donc dans cet ouvrage un nom qui est référé, c'est George Orwell. C'est aussi une pierre à cette constitution de ce livre.
Ben justement, il y a aussi un héritage dans ce livre des espèces de, on va dire, des grandes dystopies. 1984, Fahrenheit, Un monde meilleur d'Huxley, tout ça, qui ont dépeint des mondes dystopiques où on ne trouve pas forcément la porte de sortie à la fin. Et donc là, l'idée, c'est aussi de récupérer cet héritage-là et d'offrir potentiellement des portes de sortie. De faire le pont, en fait, entre ces deux époques. Je pensais aussi, je ne l'ai pas cité, mais il y a Alice Karabadjian qui a beaucoup travaillé sur l'utopie positive, qui a écrit notamment un essai dont j'ai plus le titre, mais qui est aussi quelqu'un qui est dans cette veine-là. Et oui, l'idée, c'est de reprendre aussi, donc il y a beaucoup de références, effectivement, à 1984 ou à d'autres livres de cette sorte-là, pour voilà un peu ce que je disais avant, quoi, pour essayer de trouver du positif là où on a l'impression que tout pourrait être noir et négatif et qu'il n'y aurait aucune porte de sortie.
Il y a donc ce monde un peu qui égare un peu l'individu dans ce livre, et à un moment donné, le héros, que l'on peut nommer d'ailleurs, il s'appelle...
Alors, il faut mieux peut-être pas le nommer parce que
d'accord.
On s'est un peu spoilé, du coup.
D'accord.
Bon, même si alors, ça arrive très vite dans le livre. Mais...
je ne dirai pas le nom, mais l'envie lui vient de rédiger, ou du moins de créer une écriture à l'aide de signes de ponctuation. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu cette... comment dire, ce motif à créer cette écriture?
Ben c'est que il y a un moment où, donc, pour replacer le contexte, dans cette société de contrôle, où on passe par le corps et tout ça pour essayer de s'opposer au contrôle venu d'une technologie qui est en soi imparable, pour l'esprit en tout cas. Lui, à un moment, lui vient une espèce de recette donc qui passe par le corps, par les sensations. Et c'est presque quelque chose qui est... qui ne peut pas exister par les mots, quoi. Ou en tout cas qu'au moins à un moment, j'ai... évidemment, je le décris un petit peu par les mots, etc. Mais pour lui, pour ce personnage, ça dépasse le langage. Parce que même le langage est saisi par cette technologie, par ce contrôle. Et donc lui, à un moment, il a un besoin de passer par autre chose. Et du coup, ces signes-là, cette espèce de ponctuation arrangée, ça lui permet en fait de se représenter des signes, des symboles. On pourrait presque parler de tatouage, quoi. Lui, bon, pour le coup, il se fait pas des tatouages, mais on pourrait parler de tatouages qu'on se fait sur le corps pour se remémorer que ça permet de s'ancrer face aux tentatives de contrôle. Ça permet de créer du lien collectif. Ça permet. Et donc, c'est des symboles qui viennent comme ça, qui s'invite en fait dans son... Je crois que la première fois, je le décris comme quelque chose qui apparaît quand il a les yeux fermés, qui apparaît dans son imaginaire. Simplement des points comme ça, tac, 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 des signes, des traits, et qui viennent constituer un symbole en fait qui effectivement lui permet de, voilà, de revenir à lui quand il sent que son esprit s'échappe parce qu'il est happé par cette technologie-là qui essaye de prendre le contrôle de son esprit.
Cet ouvrage aussi d'anticipation, est-ce que tu t'es inspiré de ce qui existe aujourd'hui, que ce soit scientifique, politique ou de problématiques de société ou d'aujourd'hui?
Ben c'est clair que je me suis pas mal inspiré. Alors au niveau littéraire, évidemment j'ai une grosse inspiration qui est Damasio et surtout Les Furtifs, qui m'a pas mal, que j'ai beaucoup... En fait ce livre-là, donc, je l'ai commencé à l'écrire en 2015. Et ce que j'ai écrit en 2015, il y a beaucoup de choses que je me disais avoir un peu inventées ou pas inventées, mais disons, j'avais tiré le fil de certaines inspirations. Et finalement, en le sortant là en 2025, il y a beaucoup de choses que j'ai écrites qui sont complètement actuelles, quoi. Finalement, la reconnaissance faciale dans les caméras, bon, je savais que ça allait arriver. Là maintenant, c'est incontournable, quoi. Ce genre de choses, quoi. Ou les drones tueurs, voilà, maintenant c'est quelque chose qui est complètement, qui existe totalement dans certains endroits, comme dans le conflit, dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc effectivement, c'est de la littérature d'anticipation, mais qui est très très proche de nous, et donc où on va avoir vraiment des choses qui sont très actuelles, et puis des choses un peu plus lointaines. Je pense que pas avant 2043, la date correspond peut-être à une société qu'on peut voir venir assez vite, quoi. Et voilà, ouais.
Il y a aussi les à côté, hein, autour de la littérature. Il y a cette organisation qui s'est déroulée sur plusieurs années sur le plateau du Vercors. Certainement une nouvelle édition cette année de nouveau, qui s'intitule donc Le Maquistan.
Et oui, ouais, je fais partie aussi de l'équipe qui organise Le Maquistan. Cette année, on le fera les 5, 6 et 7 juin. Donc une édition qui va ressembler aux autres années, c'est au même endroit. Donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est 3 jours de débats, de tables rondes, tout un espace de stands aussi, avec des concerts et des spectacles. avec l'idée de faire un festival des résistances. Il n'est pas grand, l'an dernier on était à 250 personnes à peu près. Je dis grand parce que l'idée c'est d'avoir un panel assez large des résistances actuelles au niveau local mais aussi global. Donc d'avoir... Là, cette année, on va porter un peu la thématique décoloniale, que ce soit sur ce qui peut se passer au niveau local ou ce qui peut se passer au niveau plus global, voilà, sur le terrain des réflexions plutôt, de comment décoloniser nos mentalités, nos espaces, etc. On est en train de contacter les gens, donc le programme n'est pas encore tout à fait établi, mais on a envie de parler autant de santé sexuelle que de ruralité, voilà, que de rapport à l'agriculture, pourquoi pas de sécurité sociale, de l'alimentation, voilà, c'est des choses que je dis du bout des lèvres parce qu'on est vraiment en train de mettre en place des choses, donc je ne peux pas trop tout dévoiler. Mais en tout cas, voilà, cette édition aura bien lieu voilà, les 5, 6 et 7 juin sur la commune de Vassieux-en-Vercors.
Ça sera l'occasion de te réentendre avec d'autres pour annoncer ces dates sur Erdiwa. Justement, cet aspect du Makistan, là où se rejoignent des penseurs, des acteurs aussi, est-ce que tu ressens un peu cet écho ou une résonance par rapport à cet ouvrage de Pas avant 2043 ?
Bah, y a clairement un terrain de lutte et de résistance dans Pas avant 2043. Ouais. Y a un endroit les jeunes que le personnage va rencontrer sont des activistes qui viennent de la ruralité d'une certaine manière parce que dans cette société, il y a eu un exode rural très très fort au moment où les campagnes ont été complètement polluées. Et où donc il était très compliqué, ne serait-ce que de se nourrir de ce qu'on plantait dans la terre, quoi, ou de ce qu'on pêchait. Et donc oui, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, mais ça se passe en Irlande. Donc le rapport à la mer et le rapport à la terre est assez important aussi, et le rapport à la résistance aussi, comme c'est une terre de résistance, une terre colonisée puis libérée. Voilà, il y a aussi tous ces endroits de comment réinventer l'avenir quand on est dans une société qui part en lambeaux de tous les côtés et qu'on essaye de se raccrocher au vivant aussi, même si le vivant est au plus mal, quoi. Donc il y a toute cette notion-là. Et je crois que dans les résistances actuelles, c'est quelque chose qui est très très important, cette notion intersectionnelle, de relier toutes les luttes et de considérer que le colonialisme et le patriarcat sont deux choses très liées, notamment sur qu'est-ce que c'est la colonialité, de vouloir imposer une forme de vie au vivant, voilà, de domination du masculin sur le féminin et de domination des peuples du Nord, des Blancs, on va dire, sur le reste du monde. Et que ce soit dans nos pays à nous, avec énormément de populations qui sont racisées, et puis au niveau mondial, voilà, des États riches sur les pays plus modestes, où il y a des ressources à prendre, à voler, entre guillemets, et avec énormément de pillages, etc. Et donc forcément, c'est des thématiques qu'on développe dans le Makistan aussi, ce rapport-là de... En fait, comment réinventer un monde sans domination ou en tout cas, on réfléchit sur nos privilèges en tant que blancs et comment décoloniser nos esprits et nos espaces. Ouais.
L'actualité aussi, depuis quelques mois, voire quelques années, celle de justement cet impérialisme américain qui réémerge avec des actions qui déstructurent un peu toutes les convictions, toutes les bases établies au niveau des rapports internationaux. Est-ce que ça aussi, c'est une grande inquiétude et est-ce que ça sera, en fonction des conséquences, des thématiques abordées aussi pour ce prochain Makistan?
Je ne sais pas si on s'intéressera à l'actualité internationale, mais elle existe forcément. Bon, évidemment, le Makistan se solidarise avec la Palestine. L'an dernier, on avait pas mal mis l'accent là-dessus. C'est forcément, évidemment, on réfléchit avec cette actualité de nombreux pays qui commencent à vouloir se réapproprier leurs propres ressources et donc qui s'opposent au pillage des puissances du Nord et notamment des États-Unis. C'est pas surprenant l'attitude actuelle des États-Unis. Ça a toujours été un pays impérialiste qui utilise son armée pour s'octroyer les ressources des pays modestes. Enfin, on l'a vu en Irak, ils y sont allés pour le pétrole. Bon, aujourd'hui, ils vont au Venezuela. Et dans l'intervalle des 20 ans qu'il y a eu entre les deux, il y a une liste assez impressionnante du nombre de pays où les États-Unis sont intervenus pour s'approprier des ressources qui ne sont pas eux. Et c'est la même chose quand on parle de la Russie ou quand on parle de la Chine. Donc il faut voir ça d'une manière globale, quoi, de l'empire face au peuple. Et nous, on fait partie des peuples. Alors certes, on est blanc et on a des privilèges parce qu'on vit dans des pays riches. Mais on fait partie des peuples oppressés au même titre que tous les peuples de la planète. Et c'est comment on rejoint la lutte de tous ces peuples-là, tout en se questionnant sur nos privilèges et sur la manière dont on peut peut-être, entre guillemets, utiliser ces privilèges aussi pour lutter contre nos propres élites, quoi. Pour moi, on est à cet endroit-là. Et donc, oui, pour moi, toute résistance actuelle, elle doit s'inscrire dans ce chemin-là, quoi. Parce que pour prendre tout en considération et que nos luttes soient réellement intersectionnelles et internationalistes aussi, quoi.
L'écriture de ponctuation qu'on a parlé, pour toi, est-ce qu'elle donnerait une suite au-delà de cet ouvrage ?
Eh ben, c'est une bonne question. Y a pas de suite qui est prévue à cet ouvrage pour le moment. Après, on m'a pas mal questionné et voire on m'a dit que ça donnait envie qu'il y ait une suite. Donc forcément, ça trotte dans ma tête un peu. Là, pour l'instant, je suis sur deux autres romans. Et puis, je fais pas mal de choses à côté, des podcasts aussi et tout. Et du coup, pas tout de suite. On verra si ça donne lieu à une suite. J'aimerais en tout cas donner vie à ces personnages-là ailleurs. Donc peut-être même que dans les romans que je suis en train de faire, ils auront un avenir, on va dire. Mais peut-être que cette histoire-là aussi s'arrêtera là comme elle est, quoi. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question.
Tu parlais de podcast, évidemment, sur RDWA, tu nous proposes une émission qui s'intitule « L'actu des oubliés ». Alors pour toi, il y a cet aspect aussi de donner la parole à qui ?
À travers l'actu des oubliés, là, c'est vraiment un podcast qui vise à, une fois par mois, donner une fenêtre ouverte sur le monde, sur une lutte actuelle, là, pour le coup. Donc, cette année, j'ai pas mal parlé de la Gen Z. Il y a eu un épisode sur Indonésie-Népal, un épisode sur Madagascar-Maroc, Pérou. Et puis là, le dernier épisode sur les Balkans, qui est sorti lundi dernier. La Bulgarie, la Roumanie, l'Albanie, Géorgie, Serbie. Et puis il y a eu aussi, j'ai fait un épisode aussi, le premier épisode de l'année, c'était sur l'ICE. Il y en aura peut-être un autre dans l'année, puisque là il y a des nouvelles en ce moment, actuellement, là, à l'heure où on parle. Hier, il y a une femme qui a été abattue par la police de l'immigration, donc qui s'appelle l'ICE aux États-Unis, à Minneapolis. Donc c'est la ville où George Floyd a été tué. En 2020, ça a donné lieu au gros mouvement contre les violences policières Black Lives Matter. Et donc, y a des manifestations très très grandes là en ce moment aux États-Unis, qui font suite d'ailleurs aux grandes manifestations qui ont eu lieu contre l'intervention militaire au Venezuela. Donc les États-Unis là sont secoués par des grosses vagues de manifestations. L'Amérique latine aussi pour répondre à l'intervention militaire au Venezuela. Il y a eu des grosses marches en Colombie hier, à Buenos Aires aussi, alors que Buenos Aires justement est aux prises avec ce président complètement inféodé aux États-Unis, qui est en train de transformer l'Argentine en pays féodal sous la coupe des États-Unis. Donc le but de l'actu des oubliés, c'est un peu de rendre compte un peu de tout ce qui se passe et de pallier un petit peu au silence des médias mainstream français sur ces sujets-là. Enfin, on voit le manque de travail absolu. Enfin, pour moi, c'est un vrai scandale, quoi, qu'il n'y ait pas de travail de fond fait sur les luttes dans le monde par les médias français. Par les grands médias, hein, parce que si on parle de Mediapart, de Basta, de rapport de force, de regard, enfin, voilà, il y a des médias qui font énormément de travail là-dessus et qui sont, et je les salue, mais voilà, que les médias qui ont le plus de presse en France ne regardent pas ces questions-là, c'est un vrai scandale. Là, il y a l'Iran aussi. Alors, bon, évidemment, l'Iran, on en parle un peu plus parce que c'est un pays qu'on considère comme adversaire, sinon ennemi. Donc, dès qu'il se passe des vagues de protestations sociales dans ces pays-là, on en parle davantage. Voilà, l'actu des oubliés, en tout cas, c'est l'idée de montrer ce qui se passe dans le monde et de dessiner des grandes lignes aussi de où en est le monde dans la protestation sociale pour penser, en fait, toutes ces luttes-là comme articulées ensemble, comme pour entretenir l'internationalisme qui est pour moi la grande solution au renversement du capitalisme.
Justement, tu parlais donc de ces populations qui sont en quelque sorte prises en otage d'un pouvoir. On peut prendre l'exemple de l'Iran. Il y a une population qui souffre de ces dirigeants qui sont indétrônables en quelque sorte, hein, malgré les réactions de la population. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est justement cette condamnation internationale envers un pays dans sa globalité sans démarquer justement le pouvoir de celui de la population. Et ça, c'est un sentiment que je trouve qui se situe aussi partout, hein, que ce soit en Israël, ou d'autres populations, on englobe le tout, mais quelle est la part justement de la parole de l'individu, de la population dans tout ce marasme, d'aborder cet aspect donc de cette accaparation de pouvoir du capitalisme sur les biens, la matière même de tout ce qui nous permet de vivre. Mm-hmm. Est-ce que c'est justement en quelque sorte ce tremplin pour cette génération Z par exemple, de retrouver ou de découvrir des nouveautés, de nouvelles manières de voir et d'abonder vers le monde, un autre monde?
Ouais, c'est ça. Ben, pour reprendre depuis le début, c'est un peu pour moi des populations qui sont qui savent ce que c'est l'impérialisme, qui ont connaissance, que ce soit par un niveau universitaire qui a augmenté, un niveau de vie qui a un peu augmenté, et par les réseaux sociaux d'un autre côté, là, l'information circule à toute vitesse, donc qui ont complètement conscience de ce que c'est l'impérialisme, qui ont conscience que leurs ressources sont pillées et qui ont conscience d'être inféodé, enfin en tout cas dominé par un pouvoir local, par un État qui est violent, qui est autoritaire et qui lui-même est complice du pillage des ressources. Et souvent qui sont aussi prises en étau entre un impérialisme occidental post-colonial, on va dire, mais qui perdure, et d'autres intérêts, un autre impérialisme qui peut être russe ou chinois, ou c'est une autre forme d'impérialisme, mais qui est là aussi, quoi. Et donc finalement, ces populations-là, elles ont conscience d'être prises entre ces impérialismes, dominées par un pouvoir autoritaire qui potentiellement est prêt à utiliser les armes contre elles, mais qui pour autant ne veulent pas détruire ce pouvoir autoritaire pour tomber dans les mains d'un côté soit de la Chine, soit des États-Unis. Et donc en Iran... C'est ce qui fait que les populations, elles sont à la fois en train de lutter contre la dictature iranienne de l'ayatollah Khomeini.
Des mollahs, oui.
Des mollahs. Et puis, mais elles disent aussi dans leur manifestation, on ne veut pas des États-Unis. Enfin, genre, quand Trump dit, ben, on va intervenir pour vous libérer, les jeunes iraniens, iraniennes disent, ah non, non, toi, tu t'en mêles pas, surtout, on se libère. Et c'est comme il y a 3 ans, au moment de la révolte des femmes qui luttaient pour avoir le droit de ne pas porter le voile, et qu'en France, l'extrême droite disait « Vous voyez, elle lutte contre le voile », et que des femmes iraniennes répondaient « Non, non, on ne lutte pas contre le voile, on lutte pour avoir le droit de ne pas le porter, mais on est solidaire avec les femmes en France qui luttent pour pouvoir le porter ». C'est-à-dire que la lutte n'est pas pour ou contre le voile, la lutte est pour la liberté des femmes. Et ben, là, c'est pareil. C'est des peuples qui veulent se libérer et que l'Occident dise « on vient vous libérer et on vient vous apporter la civilisation, le capitalisme, la liberté, etc. Ces populations, là aussi, ne sont plus dupes. En Géorgie, c'est pareil, tous les médias français sont les jeunes géorgiens et géorgiennes veulent qu'on leur apporte l'Union européenne, etc., la liberté. Ben, en Géorgie, les jeunes sont très conscients qu'ils luttent contre la domination russe, mais ils luttent de manière très très forte contre un potentiel pillage des ressources par l'Union européenne. En Serbie, c'est pareil. La population lutte contre la corruption, contre l'influence russe dans le pays, etc. Mais elle lutte aussi contre l'Allemagne et l'Union européenne qui veulent piller la vallée de Jadar et installer des mines de lithium. Donc on est vraiment avec une génération Z qui prend conscience de tous ces enjeux-là et qui veut une souveraineté, en fait. Une souveraineté, alors, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit au niveau des ressources, qu'elle soit industrielle, partout, je crois qu'on assiste à une vague mondiale de volonté de souveraineté. Et c'est vrai aussi au Venezuela, effectivement, il y a énormément de jeunes qui sont sortis dans la rue contre Maduro, parce que Maduro est autoritaire. Maduro, c'est quelqu'un qui est prêt à utiliser les armes contre son propre peuple. Sauf que quand les États-Unis viennent intervenir pour prendre Maduro et s'emparer, c'est les mêmes gens qui sortent dans la rue et qui disent « Non, non, mais on veut pas non plus que Trump vienne, parce que Trump, c'est un fasciste, tout pareil, quoi. » Et du coup, il y a vraiment un endroit de... Et bon, au Venezuela, c'est en plus un peu particulier parce que Maduro est aussi soutenu par une grosse partie de la population, faut pas le nier non plus, parce que... Maduro, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais il profite de l'héritage de Chavez que beaucoup de gens aimaient et qui a développé, qui a nationalisé les entreprises publiques et qui a développé une démocratie directe aussi qui existe toujours. Et donc, c'est une situation extrêmement complexe. Et bon, évidemment, tout le monde, tous les gens de gauche, là, j'ai l'impression, le répètent, c'est pas parce qu'on est absolument horrifié par l'intervention américaine au Venezuela, qu'on soutient Maduro. Et c'est pas parce qu'on réclame la libération de Maduro qu'on soutient le régime qu'il a mis en place. D'ailleurs, moi, personnellement, si Maduro finit en prison, ça me va, je veux dire. Mais à condition que ce soit son propre peuple qui décide de l'enfermer et pas un fasciste venu d'Amérique du Nord, quoi.
Tu parlais donc de cette compréhension entre les opposants. Tu peux citer cet exemple du voile en Iran et aussi de cette accaparation médiatique par le Rassemblement national en France. Il y a donc peut-être un langage à trouver qui puisse être vraiment compréhensible par chacun. C'est peut-être une utopie. Et dans ce cas-là, justement, je reviens sur cette écriture. Est-ce que tu lui as donné un nom à cette police ou cette écriture de signes ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment... c'est sorti un peu comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être davantage développé. Mais là, c'est vraiment collé à ce personnage qui voit ces signes et qui se les approprie pour se les ancrer dans le corps et dans l'esprit, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment de nom. C'est pas un alphabet non plus, quoi. Je l'ai pas développé à ce point-là.
Non, ça peut être plus comme un idéogramme, peut-être.
Il y a le blog de l'actu des oubliés. On peut écouter les épisodes.
Voilà.
Ça, comme site internet, si vous voulez. Mais et le livre est consultable en partie en ligne aux éditions L'Harmattan, pas avant 2043, sur le site de L'Harmattan. Il est commandable dans toutes les librairies.
Notamment à la librairie Mosaïque.
Ouais, et d'ailleurs je vais les voir juste après là pour voir si on peut faire un événement là-bas.
Eh bien Mélène, merci beaucoup d'être venue sur Air d'Ivoire pour nous parler donc de ton ouvrage, entre autres de Pas avant 2043. Et puis on se reverra bientôt pour la prochaine édition du Makistan.
Ouais, merci beaucoup Yves de m'avoir reçu et bonne journée à tous.
Au revoir.
Au revoir.